J'aimerais qu'on lise en introduction ce verset dans l'Évangile de Luc, au chapitre 19 et au verset 10. C'est un verset qui résume la venue de Jésus-Christ. « Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Si ce soir tu es perdu, tu te sens perdu, si ce soir tu te sens complètement déboussolé, peut-être même sous le poids d'une accusation, j'aimerais te dire que Dieu ne veut pas te condamner. Un deuxième texte, dans l'Évangile de Jean, au chapitre 3, au verset 17, un autre texte qui dit d'une autre manière ce que Jésus est venu faire parmi les hommes. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Amen. Et à plus forte raison, nous, là je parle pour les chrétiens, si Jésus lui-même n'est pas venu pour juger, à combien plus forte raison, nous-mêmes. Nous ne sommes pas appelés à juger qui que ce soit. Et au même titre que Jésus est venu pour que le monde soit sauvé par lui, nous aussi, qui avons été réconciliés avec Dieu, nous sommes là aussi pour que ceux qui sont dans notre entourage puissent saisir la grâce de Dieu pour eux et qu'ils puissent aussi, eux, être sauvés par lui. Nous sommes là pour aussi la même raison, pour nous les chrétiens. Maintenant, allons à notre histoire et elle se trouve dans l'évangile de Jean au chapitre 8. Jean, chapitre 8, verset 1er. Jésus se rendit au mont des Oliviers. Dès le matin, il se rendit de nouveau dans le temple, et tout le peuple vint à lui. Il s'assit et il enseignait. Alors, les scribes et les pharisiens amènent une femme surprise en adultère, la placent au milieu et disent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a prescrit de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu ? » Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus se baissa et se mit à écrire avec le doigt sur la terre. Comme il persistait à le questionner, il se redressa et leur dit, « Que celui de vous qui est sans péché lui jette le premier la pierre ?» De nouveau, il se baissa et se mit à écrire sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, à commencer par les plus âgés et jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu du peuple bien sûr, parce que le peuple était venu écouter Jésus enseigner. Alors Jésus se redressa et lui dit, « Femme, où sont tes accusateurs ? Personne ne t'a condamné ?» Elle répondit, « Personne, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va, et désormais, ne pêche plus. » Vous avez remarqué le chant qu'on a chanté tout à l'heure ? « Mon défenseur saura plaider. » C'est pour ça que je suis convaincu qu'il y a quelqu'un qui est concerné. Je ne veux pas en faire une doctrine que si les chants correspondent, il y a forcément une situation, mais je l'ai sur le cœur. Donc dans cette histoire, nous voyons quelque chose. Nous voyons une femme qui est prise en otage, parce que c'est ça, parce que le but des pharisiens, c'est surtout d'accuser Jésus. Donc elle se retrouve prise en otage par les pharisiens, parce qu'ils veulent confondre Jésus dans ses paroles, dans ses actions. Les Juifs n'avaient rien à faire du sort de cette femme, d'ailleurs. Et d'ailleurs, qui dit adultère, dit logiquement qu'il devrait y avoir une deuxième personne, et elle n'est pas là. C'est pour montrer toute l'attention qu'avaient les Juifs, et ça montre bien quel but ils poursuivaient. Le but qu'ils recherchaient n'était pas de faire justice, mais le but qu'ils poursuivaient, c'était d'accuser Jésus. Et finalement, c'est une histoire qui est centrée, peut-être il y a la femme qui est au milieu, mais il y a surtout Jésus qui est au milieu. Il y a surtout Jésus qui est au milieu. C'est lui qui est attaqué d'abord. Et les Juifs, ici, les pharisiens, ceux que j'appellerais peut-être les Juifs pendant cette prédication par habitude, mais ce sont ceux qui maîtrisent la loi jusqu'au bout des doigts, mais qui s'en servent non pas pour aider, non pas pour encourager, non pas pour guider ce qu'elle était censée être, un guide, un pédagogue, une aide. Ils s'en servent pour condamner. Ils s'en servent pour accuser. Ils montrent là de qui ils tiennent. Il y en a un qu'on appelle l'accusateur, c'est le diable. Et la Bible dit qu'il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Moi, ce texte, il m'interpelle quand même parce que cette femme, elle a été prise en flagrant délit d'adultère. Il faut y aller quand même pour prendre quelqu'un en flagrant délit d'adultère, vous ne trouvez pas ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Comment les Juifs ont-ils réussi à aller chercher quelqu'un comme ça, en flagrant délit d'adultère ? Il y a eu un complot, il y a eu quelque chose, il y a eu une machination, certes. Je ne vois pas comment ça peut être possible autrement. Ils étaient là, en plus, ils cherchaient. Il y avait un mobile. Le mobile, c'était d'accuser Jésus. Donc, ils ont regardé dans leur connaissance, dans tout ça, pour savoir qu'est-ce qu'ils allaient pouvoir trouver pour pouvoir mettre à mal Jésus. Et cette femme-là, ils devaient peut-être déjà la connaître, j'en sais rien. Toujours est-il qu'elle se retrouve, elle, victime d'un complot, victime d'une machination pour qu'elle soit prise ainsi en flagrant délit. Qu'est-ce qu'ils ont fait de leur nuit, les Juifs ? J'en sais rien. Mais toujours est-il que pendant cette nuit-là, ils ont bossé. Ils ont bossé, ça c'est sûr. Ils se sont mis en écoute, ils se sont mis à côté de la maison, bref. Ils l'ont surveillé de près. Parce que pour pouvoir prendre en flagrant délit, il faut surveiller quand même, un minimum. Vous voyez à quel point c'est une image, là. C'est une image de ce que le diable fait avec nous. Le diable, il nous surveille. Dans le sens, il n'est pas partout. Il n'y a que Dieu qui est partout. Mais au moindre faux pas, au moindre écart, on va être accusé. Au moindre écart. Il va s'en servir, le moindre écart que nous allons faire, il va s'en servir pour nous traîner en justice. Et c'est ce que font les Juifs. Dans quel but ils vont à la maison de Dieu, les Juifs ? Pour semer le trouble ? Il y a Jésus. Regardez la scène. On est au matin. Il est peut-être 9h du matin. Jésus, il est dans le temple et il enseigne. Il est assis. La Bible nous dit, il est assis. Donc il y avait tout plein de gens autour de lui. Il avait son auditoire. Il était assis. Et peut-être qu'il se servait même du sol pour faire des dessins, pour écrire, pour justement expliquer ses idées. Peut-être que c'était un support, comme on utiliserait un tableau pour expliquer aux gens. Et on se pose des questions sur ce qu'a pu écrire Jésus. Moi, je suis convaincu, c'est ma conviction, que ce qu'il écrivait, c'était simplement ce qu'il était en rapport avec l'enseignement qu'il apportait. Jésus se mit à écrire sur le sol. Quand on l'interpelle, on vient le déranger pendant son cours. Les pharisiens viennent à la maison de Dieu pour troubler. Le diable, il fait pareil. Il cherche à nous troubler. Il cherche à nous faire douter. Il cherche à nous accuser par tous les moyens. Les Juifs, ils viennent à la maison de Dieu pour s'encourager mutuellement dans leur orgueil. Ça leur fait plaisir de condamner une personne de plus. On voit que c'est ni leur première ni leur dernière condamnation, d'ailleurs. On le voit avec Jésus lui-même, on va le voir tout à l'heure. Après, même les apôtres vont subir le même traitement. Bref, ce n'est pas la première fois qu'ils se servent de la loi dans le but de condamner. Et finalement, ces Juifs-là, et même cette histoire, je dirais même dans sa globalité, il nous montre une image de ce qui se passe dans les lieux célestes. De même que cette femme va se retrouver dès le matin prise hors de chez elle ou de chez lui, j'en sais rien, ou de l'hôtel. Bref, dès le matin, sa journée commence mal, vraiment mal. Elle se retrouve traînée en justice par les Juifs qui l'ont attrapée. C'est une image de toute l'humanité. L'homme, dès sa création, à l'aube même de son existence, se retrouve déjà traîné en justice par le diable. C'est la même chose. Que cherche le diable, au fait ? Le diable, de la même manière que les Juifs utilisent cette femme pour accuser Jésus, le diable utilise l'homme pour confondre Dieu, parce que Dieu est juste et Dieu est amour. Et ce qu'il essaye de prouver, c'est que c'est impossible. On ne peut pas être les deux. Et dans ce combat-là qu'il mène, il y a l'humanité tout entière qui est prise en otage aussi. Et c'est ainsi que le péché est entré dans le monde. Parce que le diable, dès le matin du monde, a pris au piège l'humanité tout entière en introduisant le péché. Le péché, c'est ce qui va nous faire manquer le but. C'est ce qui va nous faire nous détourner de ce que Dieu veut pour nous. Dieu a prévu un plan merveilleux, un plan de bonheur. Il va nous donner des conseils. De la même manière qu'il y avait la loi qui était censée guider, être comme un pédagogue, Dieu avait donné des conseils à l'homme, dès l'origine. Et l'homme n'a pas suivi les conseils parce que le diable a su amadouer l'homme. Il y a un piège, même si l'homme est responsable de sa désobéissance, l'homme a fait son choix, il a écouté le diable plutôt que d'avoir écouté Dieu, et ça, notre mauvais choix, c'est comme ça. Aujourd'hui, le péché est entré dans le monde à cause de cette première mauvaise décision, mais si ça a commencé dès Adam, on n'est pas meilleur que les autres. La Bible dit que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Et ainsi, on a donc un combat qui existe dans le ciel entre le diable qui s'est révolté contre Dieu, qui cherche à prouver que Dieu ne peut pas être amour et en même temps juste, comme on l'a chanté, et pourtant si, c'est ce que Dieu va prouver. Le diable, il cherche à prouver le contraire, parce que s'il arrive à le prouver avec une seule personne, un seul écart, quelque part, il est Dieu. C'est ce qu'il cherche à être, le diable. Il cherche à être Dieu, aux dépens de qui vous voulez. Il s'en fiche du sort de ceux qui vont subir les dégâts collatéraux de son combat à lui. Et on va le voir dans la parole. Le diable fait toujours une œuvre qui le trompe lui-même. Et grâce à Dieu, le diable n'est pas Dieu, heureusement. Et le diable, il va essayer de doubler Dieu, mais il n'y arrivera pas. Et cette histoire en est un parfait exemple. Ici, on a les Juifs qui essayent de détruire cette femme et en même temps d'accuser Jésus en le mettant devant un dilemme. Cette question, elle est très subtile. Toi, que dis-tu par rapport à cette situation ? La loi, elle dit que cette femme, elle doit être lapidée. Et c'est vrai. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Soit Jésus, il condamne cette femme. Et alors, Dieu n'est pas amour, le combat est remporté. Soit Jésus fait miséricorde à cette femme, et alors Dieu n'est pas juste. Jésus, entre guillemets, est pris au piège de ce dilemme. C'est ce que le diable pense. Et c'est ce que les Juifs pensent, que là, ils ont trouvé le truc qui allait permettre de faire en sorte que Jésus ne pourrait pas accomplir ce pourquoi il est venu sur la terre. Parce que si Jésus fait miséricorde à cette femme, ça veut dire qu'il se fait supérieur à la loi. Et ils avaient en public un moyen pour dire que Jésus n'était pas l'envoyé de Dieu. Parce que loin de l'Éternel, l'envoyé de Dieu doit venir pour accomplir la loi et non être supérieur à la loi. Donc il fallait que Jésus confirme la loi. Je vous pose la question dans cette histoire, qu'est-ce qu'on a vu? Quelle a été la réponse de Jésus? Est-ce qu'il a confirmé la loi? Oui. Oui. Et pourtant, quel est le tour de force qu'il fait? C'est qu'il arrive quand même à défendre cette femme. Et c'est là où on voit que Jésus va tromper le diable. Enfin, Jésus va pas tromper le diable, mais le diable fait une œuvre qui le trompe. Jésus va donner une parole qui va surprendre le diable et qui va le prendre à son propre piège. Parce qu'en défendant cette femme, d'ailleurs, qui est repris par cette parole de Jésus? Tous, même la femme. Eh oui, parce que Jésus confirme la loi. Jésus n'a pas dit qu'elle n'était pas condamnable. Jésus, à la fin de l'histoire, ne la condamne pas, certes, mais lui va être condamné, on va le voir. Donc Jésus, il confirme bien la loi. Il va bien dire que cette femme est coupable. Mais à quoi fait-il appel? À l'amour de Dieu. Il fait appel à la grâce. Et alors qu'il y a les Juifs viennent avec la loi pour accuser cette femme, Jésus va faire appel à leur propre loi, celle qui est écrite dans leur cœur, celle de leur conscience. Et alors que Jésus dit cette phrase, que celui qui n'a jamais péché lui jette en premier la pierre. Alors qu'il y a eu des joutes verbales entre Jésus, les Juifs, et le ton a parfois monté, là, Jésus, en une simple parole. En plus, ça arrive entre parenthèses, parce qu'il est toujours dans son enseignement avec le peuple. Jésus, avec une seule parole, fait travailler la conscience de ses pharisiens. Jésus, à travers cette parole, va permettre que tous se retirent un à un. Et Jésus, finalement, il est le seul qui pourrait la condamner. Et il ne va pas le faire. Pourquoi? Parce qu'on l'a lu en introduction. Il n'est pas venu pour condamner, il n'est pas venu pour juger, il est venu pour sauver. Et j'aimerais te dire ce soir que si dans ta situation tu te sens sous la coupe de l'accusation du diable, j'aimerais que tu puisses réaliser ce soir que Dieu ne te condamne pas. Pas que tu n'es pas condamnable, mais qu'il ne te condamne pas, c'est pas pareil. La différence, c'est que Jésus a été condamné pour toi. Et c'est là le don qu'il fait. C'est qu'il prend ta condamnation. Il va aller à la croix. Et Jésus, c'est intéressant de faire le parallèle. Jésus va se retrouver quelques jours plus tard dans la même situation que cette femme. Une machination, un complot. On va aller le chercher pendant la nuit. Et il se retrouve ainsi devant l'accusation, tôt le matin. Comme cette femme, pareil, la même histoire, avec les mêmes accusateurs. Jésus se retrouve ainsi au banc des accusés. Et le diable essaye de continuer. Le diable ne lâche pas l'affaire. Mais grâce à Dieu, Jésus tient bon. Et Jésus va prendre la condamnation. Le diable va faire en sorte que Jésus soit condamné, mais c'est Jésus qui la prend la condamnation. Parce qu'à tout moment, il pouvait s'en sortir. Une parole et il s'en sortait. Et pourtant, quand on va lui poser les questions, il ne va rien répondre. Jésus, tout comme cette femme, s'est retrouvé dans une honte incroyable. Elle se retrouve, imaginez quand même, cette femme se retrouve en flagrant délit d'adultère. Elle se retrouve traînée comme une malpropre en plein public. Elle se retrouve accusée en plein public, devant tout le monde. Et elle risque d'être lapidée. Son péché est mis à nu, est mis à découvert. Tout le monde est au courant. On imagine que dans ce genre de relations, les relations adultérines, ce ne sont pas des relations publiques en général. Ça devait être caché, cette affaire. Mais elle qui voulait peut-être prendre un plaisir éphémère, elle qui voulait peut-être rester cachée, se retrouve complètement à découvert. Et c'est une scène aussi qui nous parle d'une autre scène qui nous attend tous, peut-être, si nous ne réglons pas le péché qui est en nous. C'est qu'un jour, notre péché sera mis à nu, mis à découvert, aux yeux de tous. Tous verront ce que nous aurons essayé de cacher tant d'années. Tous verront ce que nous essayons de planquer. Parce que si on garde ça en nous et qu'on ne règle pas le problème avec Dieu, un jour, tout sera connu. Et ce sera une honte sans précédent. Ce sera une honte sans précédent. Cette femme, elle a connu la honte. Mais laissez-moi vous dire que Jésus aussi a connu la honte. Et lui, il l'a choisi. Il ne l'a pas subi. Jésus ne l'a pas subi, la honte. Il l'a choisi. Et elle était même prophétisée. Jésus va mourir sur une croix, qui est là une grande honte. Mais même avant, mais j'aimerais qu'on puisse le lire dans la parole. Matthieu chapitre 27. Jésus, comme je vous l'ai dit, se retrouve dans la même situation que cette femme. Un matin, suite à une machination, se retrouve sur le banc des accusés. Et il ne trouve rien pour pouvoir le condamner. Et pourtant, il va être accusé à tort. Et il va subir une condamnation injuste. Mais pourquoi ? C'est parce que Jésus se donne pour nous. Matthieu chapitre 27. Jésus est au milieu aussi. Matthieu 27, verset 27. Les soldats du gouverneur conduisirent Jésus dans le prétoire et ils assemblèrent autour de lui toute la cohorte. Donc il y a du monde. Ils lui ôtèrent ses vêtements. Ses vêtements. Et le couvrirent d'un manteau écarlate. Ils tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête. Et ils lui mirent un roseau dans la main droite. Puis ils s'agenouillèrent devant lui en se moquant de lui et en disant « Salut, roi des Juifs !» Et ils crachaient sur lui « Prenez le roseau !» et le frappaient sur la tête. Après s'être ainsi moqué de lui, donc le but est clairement écrit, hein, le but c'est de se moquer, ils lui ôtèrent le manteau et ils lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. Imaginons ce que ça veut dire. Ils lui enlevèrent ses vêtements. C'est écrit. Quelle honte! Il se retrouve sans vêtements, avec ce manteau écarlate, sans ses vêtements. Quelle honte! Tout ça, c'est public, hein. Et les moqueries sont là devant tout le monde. Et il va être non seulement dans la honte de sa tenue, mais il va subir en plus les insultes, les moqueries et les coups. La flagellation, c'est pas rien. La Bible dit « J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient ». Son dos a été bien abîmé. Il a livré une bonne partie de son sang à ce moment-là. On va un peu plus loin, quelques versets plus loin, le verset 35. Après l'avoir crucifié, ce qui est une honte en soi, c'était le supplice des bandits, des criminels. Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort, afin que s'accomplisse la parole du prophète. Ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort ma tunique. Tout ça, c'est précisé par la parole de Dieu parce qu'il fallait qu'on sache que Jésus était dans la honte la plus totale. Il se retrouve sur la croix sans ses vêtements et il se retrouve ainsi à découvert. Voilà ce qu'a subi Jésus. Vous savez, en Éden, Adam et Ève étaient nus. Et quand ils ont péché, ils se sont rendus compte de leur nudité. Et ils en ont eu honte. Qu'a fait Dieu ? Il les a revêtus au moyen d'un sacrifice. Deux bêtes ont été sacrifiées. Et Dieu leur en a fait des vêtements dont il les a couverts. Jésus a fait le chemin inverse. Jésus a fait le chemin inverse quand il est allé sur la croix. Et il a pris notre honte. Il a pris notre péché, qui ainsi faisait que nous sommes honteux devant Dieu, parce que nous avons tous honte de ce que nous sommes capables de faire quand on le réalise. On a tous honte des choses qu'on cache, sinon on ne les cacherait pas. Par définition, quand on cache, c'est qu'on ne veut pas que ça se sache. Pourquoi ? Parce que ça nous fait honte. Et Jésus a pris notre honte sur lui. Il a pris mon péché, il a pris ton péché, et il est mort avec ton péché sur lui. C'est cela qui te permet de ne pas être condamné. C'est pour ça que cette femme, dans cette histoire, elle n'est pas condamnée, parce que lui, il a été condamné. Mais nous sommes tous condamnables. Il faut le comprendre. Qu'a fait Jésus à la croix ? Parce que j'y suis à la croix. Jésus remporte une victoire éclatante, alors que le diable cherchait à prouver que Dieu ne pouvait pas être juste et amour. Jésus se donne à la croix et il fait ainsi justice, parce que justice est faite. Le péché a été détruit à la croix et en même temps, il prouve l'amour de Dieu en ce que, alors que nous sommes tous pécheurs, Christ est mort pour nous. Il est mort sur la croix. Il prouve l'amour de Dieu. En un seul acte, en une seule œuvre, Jésus défait le diable complètement dans son argument. Et le combat qui a lieu dans le ciel, il est terminé. Le diable est vaincu. Le péché a été vaincu à la croix. Et ce que je vous dis, c'est écrit. On va le lire. Colossiens, je vais vous le lire dans une autre version. C'est dans le livre de Colossiens. Mais c'est important de le réaliser. Il n'y a pas une victoire sur le péché ce soir. Le péché, il a été vaincu à la croix. Colossiens, chapitre 2, versets 13 à 15. Je vous le lis dans une version différente pour que vous compreniez bien. « Et vous qui étiez morts à cause de vos fautes et parce que vous étiez incirconcis, Dieu vous a donné la vie avec Christ. Il nous a pardonné toutes nos fautes, car il a annulé l'acte qui établissait nos manquements à l'égard des commandements. » Vous voyez les Juifs qui surveillaient cette femme, et le diable qui nous surveille jour après jour, c'est pareil. L'acte qui établissait nos manquements. Les manquements, quand on manque, le but, c'est le péché. L'acte qui établissait nos manquements à l'égard des commandements a été annulé. Oui, il l'a effacé en le clouant sur la croix. Là, il a désarmé toute autorité, tout pouvoir, les donnant publiquement en spectacle quand il les a traînés dans son cortège triomphal après sa victoire à la croix. Le diable, il croyait qu'il allait remporter la victoire. Et au dernier moment, Jésus n'était même pas mort. Il réalise son erreur. Dans un dernier sursaut d'espoir, il va essayer de tenter Jésus, en lui disant « Mais si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. » Le diable réalise à quel point il s'est trompé. Il réalise à ce moment-là sa défaite. Il réalise qu'il a perdu la partie parce que Jésus l'a remporté sur la croix. Jésus a pris ta condamnation. Il est mort sur la croix pour toi. C'est le don de sa vie. C'est pour ça que tu n'es pas condamné. C'est pour ça que cette femme, dans cette histoire, elle n'est pas condamnée. Parce que Jésus va accomplir la justice de Dieu. Et il aime le pécheur. Certes, le péché, Dieu l'a en horreur. Mais il va être détruit avec Jésus sur la croix. Cette femme, c'est vous, c'est moi. On se retrouve pris en otage dans ce combat-là. Le diable, il lutte ainsi contre nous. Et il sait qu'il a perdu la partie. Mais il essaye de continuer en nous amenant, en nous entraînant avec lui dans sa perte. Il connaît son sort. Et toute son armée, les anges déchus, ils savent qu'ils ont perdu. Et ils en tremblent, c'est la Bible qui le dit. Le diable, il connaît son sort. Et il cherche à entraîner avec lui tout le monde, parce que les dégâts collatéraux, il s'en fiche. Maintenant, j'aimerais qu'on lise ensemble quelques versets. Romains, chapitre 8. Vous voyez, on a pris ce chant tout à l'heure, mais je l'avais noté, la référence. Romains chapitre 8, verset 34. Je veux le lire parce que je veux que vous puissiez le lire de vos propres yeux. Qui les condamnera ? On peut lire verset 33. Qui accusera les élus de Dieu ? Dieu est celui qui justifie. Qui les condamnera ? Le Christ, Jésus, est celui qui est mort. Bien plus, il est ressuscité et il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Jésus lui-même, alors qu'il est auprès de Dieu. Le diable est toujours cet accusateur, mais il est complètement vaincu. Alors qu'il se présente pour nous accuser, Jésus dit « J'ai payé ». Et il montre ses mains, il montre ses pieds, son côté percé, ce qui prouve sa mort à la croix. Nous ne sommes plus condamnables. Nous ne sommes plus condamnables. Tu n'es plus condamnable. Et si tu ne le savais pas, aujourd'hui, j'espère vous l'apprendre, j'espère te l'apprendre, et tu es en droit de dire « Le Seigneur Jésus est mort pour moi sur la croix. Je ne suis pas condamnable. » Le problème, c'est quand même quelque chose d'important. C'est que nous sommes endettés vis-à-vis de Dieu. Nous sommes quand même endettés vis-à-vis de Dieu. Dieu nous aime. Dieu ne veut pas nous condamner. Et il ne nous condamne pas. Mais il y a quand même une démarche personnelle à avoir vis-à-vis de Dieu. Quand on voit ce qu'il en a coûté à Dieu, Dieu s'est fait homme en la personne de Jésus. Jésus a subi tant de souffrances. Jésus a porté ma honte pour pas que moi je sois honteux, pour pas que moi je sois confus. Jésus l'a pris à ma place, publiquement. Est-ce normal que Jésus en soit arrivé là ? Non, il l'a fait. Et la moindre des choses, peut-être, serait de dire à Dieu que nous regrettons notre comportement, que nous regrettons d'être ainsi loin de lui. La moindre des choses serait peut-être de nous approcher de celui qui a donné sa vie pour nous et de lui demander quand même « Pardonne-moi, Seigneur, quand je réalise tout ce que tu as subi pour que moi, je ne sois pas condamnable. Seigneur, je veux m'approcher de toi. Je veux te demander pardon. C'est possible. Ce soir, tu peux faire cette prière. Mais il ne s'agit pas simplement d'un pardon du bout des lèvres, de dire pardon comme on le fait avec les enfants quand ils se sont disputés. On leur dit, dis pardon. Mais ça ne vient pas du cœur, ça. L'enfant, il ne le fait pas de tout son cœur. Et il faut que ça vienne du cœur. Pour que ça vienne du cœur, on a besoin de pleinement réaliser le mal que nous avons fait. Et il n'y a que Dieu qui peut nous le permettre. De la même manière que cette femme, nous l'avons lue, se retrouve dans la honte quand même sur la terre, nous-mêmes, nous sommes appelés devant Dieu à vivre ce sentiment-là. Mais c'est ce sentiment-là qui nous donnera accès à autre chose. Cette honte que Dieu nous fait ressentir quand il nous voit et qu'il nous fait réaliser comment il nous voit sans le sacrifice de Jésus. Ce sentiment-là, c'est le Saint-Esprit qui le permet. Et suite à ce sentiment-là, on peut demander pardon à Dieu de tout notre cœur, nous approcher de lui et saisir par la foi la grâce qu'il nous donne, parce qu'il ne nous condamne pas. L'apôtre Jean écrit « Mes petits enfants, je vous écris ceci, afin que vous ne péchiez pas. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. » C'est lui qui plaide pour nous et nous pouvons nous approcher avec une pleine assurance. Le sort du diable est scellé. Dans le livre de l'Apocalypse, Jean écrit aussi ceci. « J'entendis dans le ciel une voix forte qui disait « Maintenant est arrivé le salut, ainsi que la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères. » Celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Il travaillait jour et nuit à nous accuser, à t'accuser. Son sort est scellé. Il est vaincu à la croix. Maintenant, je me pose quand même la question sur cette affaire de cette femme. Le matin, se retrouve ainsi accusée Personne n'a pu l'accuser, condamné par sa propre conscience, parce que chacun savait que devant Dieu, il avait péché au moins une fois. Le seul qui n'a pas péché ne l'a pas condamné. Quel a été le reste de la journée de cette femme ? Est-ce qu'elle est retournée voir l'homme avec qui elle était ? Ou est-ce qu'elle a demandé pardon à son mari ? La Bible ne nous le dit pas. Et c'est peut-être pas plus mal. Parce que malheureusement ou heureusement, il y a le choix. Et c'est pas parce que Dieu ne nous a pas condamnés une fois que tout le monde choisit, hélas, c'est triste à dire, mais tout le monde ne choisit pas pour autant de ne plus pécher. Jésus, il dit à cette femme, « Va et ne pêche plus. » Il y a une décision. Celui qui repart dans son ancienne vie, il foule aux pieds tout ce que Jésus a vécu pour nous. Il foule aux pieds tout ce que Jésus a vécu pour lui, pour elle. C'est un mépris total envers ce que Dieu a fait. Aussi ce soir, nous sommes tous concernés. Et j'aimerais te dire que maintenant que le message a été apporté, ta responsabilité est engagée devant Dieu. Et il y a deux choix possibles. Soit tu choisis la vie et tu ne pêches plus. Tu arrêtes. Ça suffit. Ou soit tu choisis de repartir dans ton péché. Et là, suite à l'écoute de ce message, ta responsabilité devant Dieu, elle est engagée.